des gens abusés, manipulés, arnaqués. Vous avez toutes les preuves devant les yeux. Et maintenant, quelqu'un doit payer. La chaîne télé, Témoin, pour des scandales en série. Débrouillez dès le mardi 9 avril.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
Sophie Durocher.
Des opinions éclairantes qui font la différence.
Cube Radio.
Lundi 10 janvier 2022. Bonjour tout le monde. J'espère que vous avez passé une excellente fin de semaine. Écoutez, encore cette semaine, on va bien sûr continuer à parler du variant Omicron. J'ai une amie qui travaille dans le système juridique et qui me disait, quand on a annoncé les nouvelles mesures de confinement, entre guillemets, que l'impact sur les familles et sur la violence conjugale allait être énorme. Et là, voilà qu'on apprend que dans les maisons pour femmes victimes de violences, qu'il y a beaucoup de cas parmi le personnel de gens qui ont contracté la COVID et qui donc ne peuvent pas venir travailler. Donc, en plus d'avoir une augmentation du nombre de cas, on a une diminution du nombre de gens qui sont capables d'en prendre soin. La situation est vraiment catastrophique. Donc, en ce début d'année, une pensée toute particulière pour les femmes et les enfants victimes de violences conjugales. Quand j'ai vu cette nouvelle-là dans le journal ce matin, j'ai poussé un très triste. Ben voyons donc.
De la culture aux affaires publiques.
Vous écoutez
Sophie Durocher,
Cube Radio.
Et quand on entend parler aux nouvelles ou qu'on lit dans les journaux, qu'on écoute à la radio, quand on entend le mot délestage, c'est peut-être quelque chose d'abstrait. On se dit, bon, à cause de la pandémie, les hôpitaux sont obligés de faire du délestage et de remettre à plus tard des opérations ou des traitements ou des consultations. Mais dans chacun de ces cas-là, évidemment, c'est quelqu'un qui souffre et qui n'a pas accès aux soins. Donc, c'est quelque chose de très concret. On va parler maintenant avec Marie-Joëlle Gagnon. C'est la maman d'un petit garçon qui s'appelle Charlie. Il a 2 ans et lui est en attente d'une chirurgie qui est constamment remise et reportée. Et il peut pas avoir les traitements dont il a absolument besoin. Marie-Joëlle Gagnon est au bout de la ligne. Bonjour, Madame Gagnon.
Allô, bonjour.
Votre histoire a été racontée dans le Journal de Montréal, Journal de Québec. En fin de semaine, on a vu la photo de votre petit garçon, Charlie, qui est absolument craquant. Expliquez-nous de quoi souffre Charlie et de quel genre de traitement il a besoin.
En fait, Charlie, depuis sa naissance, souffre de troubles respiratoires fréquents, de pneumonie à répétition. C'est une toux grasse, une respiration sifflante. C'est beaucoup d'hospitalisation, beaucoup de séjours en stabilisation en arrivant à l'hôpital, transport en ambulance. C'est tout le temps un jouet à la roulette russe, là, un rhume pour Charlie. C'est très rare que ça dégénère pas, là. En fait, il a besoin de traitement de salin 2 fois par jour. En fait, c'est dans un compresseur en nébulisation. Il a besoin de pompe pour son asthme. Il prend du fer pour l'anémie. Une panoplie de médicaments, là, c'est ça.
Donc, pour vous, c'est quasiment un emploi à temps plein de vous occuper de Charlie, j'imagine, de prendre soin de lui et de lui administrer tout ça?
C'est sûr. En fait, moi, on vient d'avoir notre 4e bébé il y a 3 mois. Donc, présentement, je suis à la maison. C'est sûr que c'est plus facile de s'occuper de Charlie comme ça. Je me verrais pas le retourner à temps plein là dans votre futur proche, là, c'est sûr.
Je comprends. Ben, d'abord, merci de repeupler le Québec à vous deux, Madame Gagnon. Donc, 4 enfants. Revenons sur le cas de Charlie, donc qui nécessite évidemment énormément de soins de santé. Dans quelle mesure la situation actuelle avec la pandémie qui fait en sorte qu'il y a beaucoup de délestage, ça a été quoi l'impact direct sur votre fils, Charlie?
En fait, c'est des suivis qui sont un petit peu plus espacés, puisque c'est sûr que ces spécialistes sont d'ailleurs qui sont merveilleux. Il y a des spécialistes, un ORL, un pneumologue, puis un infectiologue qui sont merveilleux pour lui. Leur travail acharné, mais ils peuvent pas juste donner à Charlie. Hein. Il y a une population entière. C'est des enfants qui sont malades un peu partout avec la pandémie. Que c'est des enfants qui étaient beaucoup moins malades puisqu'ils ont presque rien attrapé dans les derniers mois. Donc c'est des suivis qui sont retardés, des demandes, des requêtes qui sont retardées, puis des opérations aussi par conséquent.
De quel genre d'opération Charlie aurait besoin et dans quelle mesure le fait de les retarder, ça va avoir un impact à long terme sur sa santé?
En fait, l'opération qu'il a de besoin est assez mineure en soi. C'est pour retirer les amygdales, finalement, pour remettre des tubes dans ses oreilles aussi, puisque Charlie faisait des otites fréquentes. Pour retirer les amygdales, en fait, c'est que Charlie souffre d'apnée du sommeil, ce qui fait que, dans le fond, les amygdales sont trop grosses. Donc, couché, un coup dans un sommeil profond, les amygdales viennent coller dans ses voies respiratoires, gonflent. Donc, il fait des pauses respiratoires, puis la saturation en oxygène chute. Donc, l'opération en tant que telle, c'est vraiment juste de retirer les amygdales. Puisque Charlie fait de l'apnée du sommeil, c'est un enfant qui doit rester 24 heures à l'hôpital pour surveiller sa saturation, justement, à comparer des enfants, exemple, qui ont besoin seulement de se faire enlever les végétations ou un tube qu'en 3-4 heures ont quitté l'hôpital. C'est ça qui fait que Charlie a c'est probablement que c'est plus retardé parce qu'il a besoin d'un lit, en fait, là.
D'accord. Vous êtes devenu, on vous écoute parler, on a l'impression que vous avez fait 20 ans d'études en médecine. En fait, vous êtes allé à l'école Charlie, parce que j'imagine que c'est un cours accéléré dans toutes ces problématiques de santé-là. Donc, cette opération qui peut sembler banale, hein, se faire enlever les amygdales quand on fait une amygdalite, c'est tout simple, mais elle a été retardée combien de fois et depuis combien de temps cette opération aux amygdales pour Charlie?
En fait, on l'attend depuis le mois d'octobre. Puis c'est une opération qui devrait prendre entre 12 semaines et moins, puisque Charlie est classé, je me souviens plus le nombre de priorités, comment ça fonctionne dans les préparations préopératoires, là. Mais c'est ça, c'est supposé être dans 12 semaines ou moins. Puis avec le COVID, là, on m'a confirmé là, que ça dépasserait largement là, le 12 semaines. Puis c'est autant pour Charlie que pour plusieurs personnes qui sont en attente d'opérations mineures comme ça. Là.
Donc, plus de 3 mois, alors que normalement, ça doit se faire à l'intérieur de 3 mois. Est-ce qu'il y a quelqu'un chez vous qui a attrapé la COVID? Est-ce que ça a comme été une goutte de plus dans l'océan de vos malheurs?
Non. En fait, Charlie, depuis le début de la pandémie, doit être rendu à au moins 18 ou 19 tests PCR, puisque à chaque fois qu'il est hospitalisé, à chaque fois qu'il y a un symptôme, qu'il y a de la fièvre, qu'il y a une surinfection pulmonaire, on devait le tester, soit à l'hôpital ou dans un centre de dépistage. Par contre, non, on a été chanceux, entre guillemets, là. On pensait qu'on l'allait, puis finalement, non.
Je me mets à votre place 2 secondes, hein, parce que je sais que je ne peux pas me mettre à votre place, mais je me mets à votre place, puis je regarde les nouvelles, puis je vois des gens qui font le party dans l'avion, les fêtards là, qui font le party dans l'avion à Sunwing. Je regarde des gens qui vont dans les lieux de culte alors que les lieux de culte devraient être fermés, qui portent pas le masque. Je regarde des gens qui font des manifestations contre les mesures sanitaires, contre les vaccins, qui portent pas le masque et qui crient liberté. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire à ces gens-là quand vous savez que vous, votre petit Charlie, pendant ce temps-là, il se fait pas opérer?
Je pense que on a tout envie d'y aller dans le sud, on a tout envie de décrocher avec nos amis, on a tout envie de revivre une vie qu'on vivait avant, il y a 2 ans. C'est sûr que c'est ça, comme j'ai toujours dit, on peut toujours avoir notre opinion là-dessus. Tu peux être contre, tu peux être pour, mais je pense que ta liberté s'arrête là où la mienne et celle-là de mon garçon commence. C'est sûr que c'est facile quand on n'est pas à la place de quelqu'un qui vit comme ça, toujours avec une épée au-dessus de la tête, de se dire bon, on va-tu l'attraper, puis que ce soit la COVID ou peu importe quoi, Charlie a été hospitalisé et transféré par ambulance dans 2 hôpitaux seulement pour une simple laryngite. c'est facile de penser un peu à notre nombril. Par contre, c'est ça, on fait ce qu'on peut.
Madame Gagnon, vous nous disiez tout à l'heure tout le bien que vous pensiez des différents spécialistes qui s'occupent de Charlie et qui s'en occupent bien. Est-ce que ces spécialistes-là sont eux-mêmes découragés du fait de devoir justement reporter les opérations et reporter les traitements? Est-ce qu'ils sont eux aussi décontenancés devant la situation?
Ah, c'est sûr que oui. En fait, je veux dire, son ORL, son pneumologue, ça leur brise le cœur. En fait, ils sont là, puis c'est une vocation pour eux. Puis de devoir se priver de place, de lit et de temps pour pouvoir soigner des enfants malades. Quand je parle de ça, nous, on est suivants en pédiatrie, donc c'est pour les enfants malades. Ça leur brise le cœur, là, c'est évident.
Comment ça se gère dans une maison quand on a 4 enfants, surtout un enfant tout jeune, là, 3 mois, c'est vraiment tout récent que vous venez d'accoucher. Comment vous arrivez à organiser votre vie entre les soins que vous devez prodiguer à Charlie, vivre avec le stress aussi de sa condition et gérer, entre guillemets, les 3 autres enfants qui ont aussi besoin de vous, Madame Gagnon?
Je crois qu'on survit. C'est une routine qu'on a fini par s'établir. Il n'y a jamais une journée de pareil. C'est ça, il y a une journée que ça peut super bien aller. Le lendemain, Charlie peut décliner. Il y a des nuits qu'il peut désaturer trop de fois. Il se réveille, c'est fréquent. Il se réveille en pleurant et tout trop. Fait que c'est sûr qu'il n'y a pas de nuit de pareil, il n'y a pas de journée de pareil, puis on y va à la minute, là.
Est-ce que, excusez-moi de poser la question de cette façon-là, mais est-ce qu'il y a une douleur physique, c'est-à-dire est-ce que sa condition vient aussi avec une douleur physique, et si oui, est-ce qu'il y a des médicaments pour le soulager? Juste nous donner, mettons, sur une échelle de 0 à 10, quel est son sentiment d'inconfort ou de douleur physique?
Si on parle quand il est en surinfection, en fait, les surinfections, c'est quand que vu sa dysphagie, en fait, il y a les liquides tombe, une partie de les liquides qui tombent dans ses poumons. Donc, on fait juste penser quand on pogne un bouillon là, dans l'eau, ça fait mal. Bon, ben lui, il y a du lait qui tombe dans ses poumons, ça l'infecte. Donc, c'est des pneumonies. Une pneumonie, ça fait mal, c'est de la toux. Il finit par en vomir. Une toux, c'est des maux de gorge. C'est sûr que c'est lui, c'est comme si ses poumons, ils faisaient mal en tout temps. Quand il se réveille puis qu'il est à bout de souffle à cause d'une apnée, c'est un inconfort. Par contre, il n'y a pas de médicaments pour le soulager comme de la morphine ou un narcotique. Là, c'est plus en cas de besoin, quand ses poumons sont trop enflés, bon, on donne un anti-inflammatoire puissant, ce qui fait que ça l'agite beaucoup. C'est l'effet secondaire de ce médicament-là, mais c'est ça, non, il n'y a pas de douleur. C'est sûr que c'est tout dépendant du symptôme. Il peut avoir une douleur, oui, comme je disais, mais je veux dire, Charlie vit très bien. Tout le monde qui le connaît savent à quel point que cet enfant-là sourit depuis la première journée qu'il est né jusqu'à maintenant. Il a tout le temps vécu comme ça. Donc, je pense que pour lui, c'est un mode de vie, entre guillemets. C'est triste à dire. Par contre, tout le monde l'appelle le petit guerrier, là. Puis, il porte bien son nom, je pense.
Il porte bien son nom, Charlie, le petit guerrier. Donc, c'est ma collègue Catherine Bouchard qui a fait une entrevue avec vous, qui a raconté votre histoire dans le Journal de Montréal, Journal de Québec. Ça a été publié hier dans le journal. Quelle a été la réaction depuis que le texte a été publié, Madame Gagnon?
Ça s'est enflammé totalement. Moi, je ne m'attendais jamais à ce que ça fasse une aussi grosse bombe, entre guillemets. Vraiment, je croyais pas, là. Je m'attendais pas à avoir des demandes d'entrevue comme ça. Mais de savoir que tout le monde connaît l'histoire, c'est vraiment pas pour nous lancer de fleurs ou pour paraître comme une victime. C'est vraiment juste pour donner la voix à tous les enfants, puis autant enfants, adultes, parce que je vois souvent des commentaires, ah ben un enfant, ça vaut pas mieux qu'un adulte ou qu'une personne âgée. En fait, on englobe tout ça. Puis il n'y a pas personne qui mérite d'attendre, il n'y a pas personne qui mérite d'être laissé de côté en raison du délestage, là, vraiment.
Donc, majoritairement des commentaires positifs. On sait qu'il y a aussi des nonos, peut-être, qui font des commentaires dérogatoires, mais ces gens-là, il ne faut pas les écouter. Est-ce que toute cette vague d'amour-là et d'appui et de support, est-ce que ça met un petit peu de baume sur dans votre cœur de savoir que, comme ça, votre histoire a autant touché le Québec et qu'il y a autant de gens qui ont de la compassion et de la bienveillance pour vous et toute votre famille?
Ben c'est sûr que oui, parce que je veux dire, justement, des nonos, entre guillemets, il va toujours en avoir. Qu'on fasse quelque chose ou qu'on fasse le contraire, tout le monde, il y a tout le temps quelqu'un qui va mettre son grain de sel. C'est comme ça. Je veux dire, de savoir qu'on est justement qu'on n'est pas toute seule, puis que ça s'est propagé, que ça a fait une grosse vague, c'est sûr qu'on se sent moins abandonné, puis laissé à notre sort, là, c'est sûr.
Écoutez, je vais faire quelque chose avec vous, Madame Gagnon. Dès que vous avez une nouvelle positive, c'est-à-dire soit l'opération ou différents développements positifs dans l'histoire de Charlie, contactez-nous pour qu'on puisse vous redonner la parole une autre fois, parce que dans cette période vraiment sombre et difficile, on a tous besoin d'histoires qui se finissent bien et d'histoires d'espoir. Donc, contactez-nous. Puis entre-temps, je vous demanderai de prendre Charlie dans vos bras et lui donner un gros bisou de la part de tout le monde ici à Cube Radio et de la part de tous nos auditeurs. Et la même chose pour ses trois frères, hein, Louis, Milan, Éloi et votre conjoint également. Vous êtes une belle famille et c'est une histoire qui nous a tous touchés ici. J'en perds mon français. Qui nous a tous touchés à Cube. Merci beaucoup d'être venu nous parler aujourd'hui.
Mais ça fait plaisir. Merci à vous.